Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Guillaume Nodin.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appel sur l'actualité, émission spéciale aujourd'hui à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad jusqu'à 9h, temps universel. Nous allons nous souvenir, revenir sur les faits marquants, faire une sorte de bilan et parler aussi de l'avenir avec vos témoignages à vous, les auditeurs d'Appel sur l'actualité et de RFI, et avec les commentaires de nos deux invités, Mahamat Nour Ibedou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme et le professeur Évariste Ngarlem Toldé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena. On va vous retrouver tout au long de cette émission, mais on va tout de suite prendre un premier témoignage à N'Djamena, et c'est celui de Gédéon. Bonjour Gédéon.
Bonjour Guillaume Nodin, et bonjour aussi à mon frère Juan Gomez qui est en vacances.
Et il se repose, un repos bien mérité. Gédéon, vous aviez 9 ans en 1960. Quels souvenirs gardez-vous de l'indépendance ?
Eh bien, j'étais tout jeune pendant qu'il y avait une euphorie de l'indépendance. Les gens dansaient dans les rues. Les rues étaient encore, n'est-ce pas, boueuses. Et puis, il y avait que trois avenues. Il y avait l'avenue Charles de Gaulle, il y a l'avenue Mobutu et qui longe de l'est à l'ouest traverse N'Djamena. Il y avait l'avenue El Nehri, les trois grandes avenues qui est au nord, n'est-ce pas, de N'Djamena. Et là, vous voyez, pendant ce temps-là, François Tombalbaye Ngarta a proclamé l'indépendance par la nuit et puis nous, on ne comprenait presque rien en tant qu'enfants, mais les parents nous relatait que maintenant les Français ils vont partir et que la destinée du pays sera dirigée par François Ngarta Tombalbaye. Et ensuite, les 10 premières années, j'ai eu également ce souvenir que lorsque j'étais encore à l'école primaire, il y avait la visite de Valéry Giscard d'Estaing, de Pompidou d'abord, puis Valéry Giscard d'Estaing. Et donc là, dans les rues, on était là, on dansait. Bon, l'école primaire, on nous mobilisait, n'est-ce pas, comme étant des élèves pour venir accueillir, n'est-ce pas, nos présidents hôtes. Et puis, et là, vous voyez, c'était juste une euphorie. Mais plus tard, on a compris que, l'indépendance était quelque chose également d'aussi grave, parce que c'est pas seulement l'indépendance politique, mais il fallait une indépendance économique. Et là, on voyait maintenant des enjeux qui se manifestaient.
Mahamat Nour Ibedou, merci Gédéon. Mahamat Nour Ibedou, l'indépendance, c'était un espoir, une euphorie, mais peut-être surtout une forme d'inconnu. Il y avait tout à faire.
Oui, effectivement. À l'instar des autres pays africains anciennement colonies françaises d'outre-mer, le Tchad fut proclamé république le 28 novembre 1958 et accède ainsi à l'indépendance le 11 août 1960. François Tombalbaye, qui avait solennellement proclamé de prononcer le discours d'indépendance à cette date, en était devenu le premier président. Il régna pendant 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au 13 avril 1975. Il instaure rapidement un régime dictatorial après avoir interdit tous les autres partis politiques. Les conséquences de cette politique ont entraîné des révoltes qui ont permis la création d'un mouvement rebelle qui s'appelle le Front National de Libération du Tchad, Frelinga. Bon, il fut finalement emporté par un coup d'État militaire qui porta le général Félix Malo au pouvoir.
Alors,
qui devenait à la tête.
On va y revenir, Mahamat Nour Ibedou, parce qu'on va effectivement reparler de toute l'histoire du Tchad tout au long de cette émission. Professeur Évariste Ngarlem Toldé, est-ce qu'en 1960, l'indépendance correspondait à un désir impérieux des Tchadiens, ou est-ce qu'on était davantage peut-être dans un mouvement général en Afrique, et notamment en Afrique centrale ?
Absolument, c'était donc un mouvement général qui s'est enclenché en Afrique avec la loi cadre de 1956, la proclamation de la République, comme Manu Ribédou l'a dit, et puis l'indépendance le 11 août 1960. Mais il vous souviendra qu'à cette époque-là, il y avait peu de Tchadiens qualifiés. Il y avait peu de Tchadiens diplômés de l'enseignement supérieur, et le Tchad va accéder à l'indépendance avec une minorité de Tchadiens instruits, et avec, comme vous l'avez dit, un saut dans l'inconnu, et c'est cet inconnu-là que nous sommes en train de vivre jusqu'aujourd'hui.
Alors, merci, professeur Évariste Ngarlem-Toldé. Nous sommes maintenant avec Céphase qui nous appelle de Moundou. Bonjour, Céphase.
Bonjour, Guillaume Nodin. Bonjour à tout le monde sur le plateau.
Merci à vous et bonjour pour vous. C'était peut-être un petit peu tôt. Il aurait peut-être fallu davantage se préparer, préparer des élites, préparer le pays.
Oui, justement, parce que depuis, vous pouvez constater que depuis 1960, le Tchad, à l'instar des autres États africains qui ont accédé à l'indépendance politique, mais cette indépendance politique, certes, mais il y a beaucoup qui reste à faire parce qu'il faut, s'il faut faire encore la lecture de l'histoire du Tchad, je pense que il y a plusieurs tendances politico-militaires qui sont passées au pouvoir et que chaque fois qu'il y a un changement au niveau de la tête de l'État, c'est toujours par un coup d'État. Donc, il faut d'abord négocier à ce que chaque fois qu'un régime passe là, il faut une alternance paisible pour que le Tchad puisse, n'est-ce pas, consentir davantage pour le développement. Mais toujours est-il que le pouvoir qui se passe et qui se succède au Tchad là, c'est toujours des pouvoirs militaires. Donc, c'est un peu difficile quand même d'asseoir véritablement une alternance ou encore une politique de développement comme il le faut.
Alors, Mahamat Nouri Bédou, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était trop tôt? Est-ce qu'on peut considérer, comme ça, vu de l'extérieur, qu'un pays doit être souverain rapidement ou est-ce que les responsabilités doivent être prises rapidement, comme ça a été le cas?
Non, mais pour moi, j'estime quand même que le moment était venu pour ces États-là d'accéder à une souveraineté, même si celle-ci est nominale, cette indépendance. Bon, en fait, je vais revenir. Mais c'est vrai que tout début a toujours des manquements. À l'époque, il y avait, comme l'a dit mon frère, l'Évariste, qu'il n'y avait pas assez de cadres à l'époque. Bon, c'était des cadres qui étaient juste formés par à l'école coloniale. Et qui était en fait qui régnait à l'image de ce qu'on leur avait enseigné. Bon, disons que l'intérêt national n'était pas très à l'ordre du jour, mais en fait quand même on pense que c'est quand même symbolique et ça fait que tout le monde, quand il entend parler de l'indépendance, est toujours, comme l'a dit, un auditeur euphorique. Et voilà, bon, mais en fait, jusque-là, il n'y a pas eu de vraie indépendance, une vraie indépendance par rapport à ce qui se passe maintenant avec la France-Afrique, le France-CFA, etc.
Ouais, comme nous l'indiquait Gédéon, il y a quand même eu avant, pendant, après une forte présence française avec des visites de présidents français. Donc effectivement, et on va en reparler au cours de cette émission, la présence française a toujours été là au Tchad. Évariste Ngarlem-Toldé, très rapidement après l'indépendance, on a commencé à l'évoquer aussi, la situation a commencé à se dégrader avec des rébellions armées et des coups d'État qui se sont succédés.
Oui, une fois de plus, malheureusement, c'est ce constat-là que nous faisons aujourd'hui. Ça a commencé, Mani Ribédou l'a dit, avec l'instauration du Parti unique, avec les événements de septembre 63, avec des manifestations violentes, et puis ça en est suivi la création donc d'une rébellion appelée le Folina. Et depuis lors, le Tchad a vécu de ces soubresauts-là et il n'y a pas eu d'alternance pacifique au Tchad. On est arrivé à un coup d'État en 75 sur le premier président François Toubal Mbaye, qui était le militaire qui a pris le pouvoir. Depuis en 79, une guerre civile a éclaté. Voilà, et donc 3 ans après, Hissène Habré est arrivé, il a pris le pouvoir. Donc c'est toujours le pouvoir au bout des armes et le Tchad est en train de vivre ça jusqu'en 90 avec le régime de Idriss Déby. Donc l'indépendance qui était donc octroyée, c'est vrai, les Tchadiens ne l'attendaient pas, mais cela ne pouvait en être autrement puisqu'on a connu, je crois, voire plus de 60 ans aussi de colonisation. Il était temps quand même que le 11 mai 1960, que le Tchad dans les stades des autres pays puisse être proclamé indépendant. Là, on ne revient pas là-dessus, c'est tout à fait normal, comme tous les autres pays. C'était un processus qui a été enclenché le 1er janvier 1960 avec le Cameroun, et puis ça a suivi à tour de rôle les pays francophones, et puis le Tchad, c'est en 1960. Mais malheureusement, on est au degré de constater que les Tchadiens n'étaient pas préparés vraiment à prendre leur destin en main. Et puis, voilà, il y a eu des batailles politiques, il n'y avait pas eu assez de cadres politiques. La vie politique au début des indépendances, bien avant, était animée par des étrangers, notamment Gabriel Livette, le Guadeloupéen, et puis bien d'autres cadres de l'Afrique de l'Ouest qui animaient les partis politiques. Et cela a fait que les Tchadiens qui commençaient par créer des partis au début des indépendances, là, se sont bouffés le nez, et vous savez qu'à quelques jours du début des indépendances, il y a eu un gouvernement d'un mois, ensuite il y a eu un gouvernement de 8 jours, et puis le gouvernement de François Thomas Mbaye. Donc ça annonçait déjà les couleurs de cette indépendance pour lesquelles les gens ont lutté, pour lesquelles les gens ont bataillé. Et voilà, dès qu'on est arrivé le 11 août, ça partait dans tous les sens. Instauration du parti unique, affrontement de septembre 63, création du Frelimo en 66, coup d'État en 75, et puis guerre civile en 79, voilà. Donc les deux premières décennies ont été une décennie sanglante. On pensait que cela allait prendre fin, mais ça a continué encore en 90. Un régime vient renverser un autre. Donc c'est le régime qui prend la place du...
Ouais. Et tout cela, vous le disiez à l'instant, a culminé avec la présidence d'Issénabré dans les années 80, 82 à 90. C'était la période la plus sombre dans l'histoire du pays. On estime que 40 000 personnes ont été tuées par les forces d'Issénabré. Charles, vous êtes à N'Djamena, bonjour.
Oui, bonjour.
C'était une période absolument sinistre. À l'époque, tout le monde était susceptible de se retrouver en prison et de ne pas en sortir.
Effectivement, la période, les huit années du règne de Issénabré ont été vraiment la plus sinistre, la plus chaude, parce que c'était un régime totalitaire où tout le monde s'observait. Et même quand tu achètes quelque chose, il faut que tu justifies, quand tu as l'argent en main, tu dois justifier. Moi, j'ai plein d'histoires. Mon oncle, il me racontait qu'il avait acheté un terrain à Sar, et après, 3 jours après avoir acheté le terrain, ils sont venus lui demander où est-ce que tu as trouvé l'argent. Il était obligé de fournir toutes les justifications d'abord avant qu'on le libère. Et là, entre-temps, il a tapé 3 semaines dans le violon. Donc, c'est vraiment un régime totalitaire. Nous, à l'époque, j'étais encore jeune, on nous prenait dans le parti unique, l'UNIR, pour chanter les gloires de Issénabré. On avait un groupe qui s'appelait Groupe Choc. Donc chaque soir, on se réunissait, nous qui étions des petits-enfants, on nous ramassait pour chanter l'éloge de Issénabré, la gloire de Issénabré. Donc vraiment, c'est un régime dont la liberté n'existait pratiquement pas. Quoi. Quand tu vois ce qui... Quand on essaye de parcourir tous les détails, c'était terrible.
Merci.
Donc, il fallait... Oui, je vous écoute.
Oui, merci Charles pour ce témoignage. Issénabré a été condamné à la prison à vie par la justice pour crime contre l'humanité. Il purge sa peine au Sénégal. Il avait provisoirement quitté sa cellule pour être placé en résidence surveillée pour une période de 60 jours en raison de la pandémie de Covid-19 avant d'être réincarcéré. Mahamat Nouribedou, en tant que secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, estimez-vous que justice a été faite? Est-ce que c'est un signal important d'ailleurs, cette condamnation dans l'histoire du pays?
Absolument. Absolument. Parce que là, franchement, c'était même une première en Afrique tout entière. Parce que c'est la première fois qu'un souverain déchu en Afrique soit jugé par un tribunal strictement africain. Et là, c'est vraiment symbolique. Et là, Issénabré, évidemment, il mérite bien cette incarcération parce que, en fait, son régime était l'un des plus sanglants que le Tchad ait connu. C'était un système policier, c'était un régime où on avait du mal à respirer parce que tout le monde était étouffé par cette...
Un régime, comme le disait Charles, qui était totalement, enfin totalitaire, quoi.
Totalitaire, absolument. C'est même l'un des régimes les plus totalitaires que le pays ait connu. Et donc, à cette époque, c'était même difficile de se parler au sein de la famille, parce qu'on se craignait l'un et l'autre. Tellement le régime était un régime policier.
Et là, vous voulez dire que, par exemple, les parents craignaient que les enfants dénoncent des agissements C'est ça?
Non, que les parents ne soient membres de la police politique.
Ah oui, dans les deux sens, alors?
Oui, absolument, absolument, dans les deux sens. Mmh. On a vu des époux se soupçonner. Et l'autre, puis après, l'autre est emporté par... il est mort suite à ceci d'arrestation.
D'accord. Évariste Ngarlem-Toldé, cette période, cette succession de coups d'État que vous avez évoqué, de prise de pouvoir violente, tout ça a eu quelles conséquences pour la pratique et la culture politique dans le pays, au Tchad?
Ben, il faut se rendre à l'évidence que cela a laissé donc de très mauvais souvenirs aux Tchadiens. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, dès qu'on entend des coups de feu autour de la présidence, c'est la débandade générale. Les gens croient toujours à un coup d'État, même si c'est des essais d'armes ou des tirs accidentels qui arrivent. Donc, il y a toujours cette psychose-là de la guerre qui reviendra toujours dans la capitale. Certains Tchadiens estiment que même les infrastructures qui sont construites dans la capitale, c'est toujours en préparation d'une éventuelle attaque des mouvements rebelles sur la capitale. Tout ce qui se fait, c'est toujours en prévision d'une offensive militaire quelconque sur la capitale. On est resté toujours dans la psychose d'une guerre au Tchad jusqu'à aujourd'hui, à telle enseigne qu'on avait cru que avec ces événements, les Tchadiens allaient vivre une alternance paisible et démocratique au Tchad après deux mandats au pouvoir du président Idriss Déby. Mais tel que cela se passe, on est en droit de croire encore que démocratiquement, le président Déby ne partira pas du pouvoir. Donc voilà, on croit toujours qu'il n'y aura pas d'alternance et que nous croyons que les mêmes événements produisent encore les mêmes effets.
Ça a eu un impact sur la culture politique du pays, c'est-à-dire que comme on ne croit pas vraiment à l'alternance, il n'y a pas vraiment d'opposition qui se met en place, il n'y a pas de vie politique et démocratique classique.
Non, il y a eu une vie politique et une vie démocratique. C'est vrai, il y a eu des élections. On a eu des élections en 2016, en 96, en 2001, en 2006, en 2011, en 2016. On a eu des élections. Nous avons également des partis politiques qui exercent librement leurs actions sur le territoire national, même si certaines libertés sont restreintes aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, c'est une démocratie de façade. Parce que, comme le dit quelqu'un ici en Afrique, les gens connaissent même les résultats des élections avant même la proclamation des résultats, parfois même avant l'organisation des élections. Donc ce sont des parodies d'élections que les gens organisent. Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, les Tchadiens ne croient plus à la classe politique tchadienne. On ne compte plus sur cette opposition qui continue par se diviser. Et puis les Tchadiens n'attendent rien de la classe politique en fait. Donc aujourd'hui, les Tchadiens pensent que si quelque chose doit se passer, c'est démocratiquement, notre Tchadien doit prendre la place du président Idriss Déby. Il faut également se souvenir que même en participant à l'élection de 2016 et en voulant encore être candidat en 2021, le président Idriss Déby est en train de faire une élection encore de trop pour le peuple tchadien.
On va en reparler dans la deuxième partie de cette émission qui va venir, de même qu'on va parler des relations entre la France et le Tchad, des conséquences économiques de l'indépendance et des conséquences encore sur la vie démocratique. On se retrouve dans 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, en laissant passer le journal d'ici là.